Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 14. La guerre et la santé de l'État. Troisième partie. La guerre offrit au gouvernement l'occasion de se débarrasser de l'IWW. Au début du mois de septembre 1917, des agents du département à la justice intervinrent dans 48 réunions organisées par l'IW, emportant la correspondance et les publications qui allaient servir plus tard de pièces à conviction lors des procès. Courant septembre, 165 responsables de l'IW furent arrêtés pour conspiration visant à empêcher l'incorporation, incitation à la désertion et pratique d'intimidation dans les conflits sociaux. Jugea 101 membres de l'IW en avril 1918. Il s'agissait alors du plus long procès de toute l'histoire des États-Unis. 5 mois. John Reed, l'écrivain socialiste qui revenait juste de son expédition en Russie pendant la révolution bolchévique, couvrit le procès pour le magazine The Masses et décrivit les accusés en ces termes. Je doute qu'on n'ait jamais rien vu de tel dans toute l'histoire. La réunion de 101 bûcherons, ouvriers agricoles, mineurs, journalistes, qui pensent que les richesses de la terre appartiennent à celui qui les crée, autrement dit, aux carriers, aux abatteurs d'arbres, aux dockers, à tous ces gars qui font le dur boulot. Les membres de l'IW utilisèrent ce procès comme une tribune pour exposer leur action et leurs idées. Parmi les 61 Wobblies qui prirent la parole, on retrouvait Pigpeal Haywood qui témoigna durant 3 jours. Ils furent tous déclarés coupables. Le juge condamna Haywood à 14 ans de prison, d'autres à 20 ans. 33 accusés en prirent pour 10 ans et il eut également quelques peines moins lourdes. Le total des amendes s'élevait à 2,5 millions de dollars. L'IWW fut anéanti. Haywood paya la caution et partit pour la Russie révolutionnaire où il mourut 10 ans plus tard. La guerre prit fin en novembre 1918. 50 000 soldats américains y avaient perdu la vie. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que s'installe, même chez les plus patriotes, la désillusion et l'amertume. La littérature publiée au cours de la décennie suivante reflète bien souvent cet état d'esprit. Dans son roman « L'an premier du siècle », John Dos Passos évoque la mort de John Doe, dit « Monsieur tout le monde ». En l'occurrence, il s'agit du corps d'un soldat non identifié, choisi pour incarner le soldat inconnu. Ernest Hemingway écrivit son adieu aux armes. Quelques années plus tard, un étudiant nommé Irvin Shaw écrivit une pièce intitulée « Bury the Dead » et un scénariste hollywoodien, Dalton Trumbo, « Johnny s'en va en guerre ». Roman pacifiste, aussi émouvant qu'éprouvant, autour d'un corps affreusement mutilé, dont seul le cerveau est sorti indemne du champ de bataille. Quant à Ford Madox Ford, il écrivit « No More Parades ». Après la guerre, et malgré les emprisonnements, les tentatives d'intimidation et les efforts fournis pour construire l'unité nationale pendant le conflit, les hommes en place continuèrent d'avoir peur du socialisme. Il semble qu'il devint à nouveau nécessaire d'user de la double tactique, classique, de maintien de l'ordre face aux défis révolutionnaires, la réforme et la répression. La réforme était préconisée par George L. Ricord, un ami du président Wilson, qui lui écrivait au début de 1919 qu'il fallait agir pour plus de démocratie économique afin de contrer la menace socialiste. Ricord conseillait à Wilson de devenir le véritable leader des forces radicales américaines et de proposer au pays un programme constructif de réformes fondamentales, véritable alternative au programme présenté par les socialistes et les bolcheviques. Cet été-là, le conseiller de Wilson, Joseph Tumulty, lui rappelait combien le conflit entre démocrates et républicains avait peu d'importance en regard de ce qui menaçait les deux partis. Ce qui s'est produit à Washington hier soir, lors de la tentative d'assassinat contre le ministre de la Justice, n'est qu'un symptôme de la terrible agitation qui secoue tout le pays. En tant que démocrate, je serais désolé de voir le parti républicain reprendre le pouvoir. Mais ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que de voir à quel point grandit, de jour en jour, et sous nos yeux, un mouvement qui, à moins d'être réprimé, s'exprimera nécessairement par des attaques contre tout ce que nous chérissons le plus. En cette période d'agitation industrielle et sociale, les deux partis connaissent un total discrédit auprès du citoyen moyen. Ce qui s'était produit à Washington la veille, c'était l'explosion d'une bombe devant le domicile du ministre de la Justice de Wilson, Mitchell Palmer. 6 mois plus tard, Palmer opérait la première de ses rafles massives chez les étrangers, c'est-à-dire chez les immigrants qui n'étaient pas citoyens. Une loi avait été votée par le Congrès peu avant la fin de la guerre. Elle préconisait la déportation des étrangers qui s'opposaient aux décisions du gouvernement ou qui prônaient la disparition de la propriété privée. Le 21 décembre 1919, les hommes de Palmer arrêtèrent 249 étrangers d'origine russe, parmi lesquels Emma Goldman et Alexander Berkman. Ils les embarquèrent sur un navire et les expulsèrent vers ce qui était désormais la Russie soviétique. La Constitution n'autorisait pas le Congrès à expulser des étrangers, mais la Cour suprême avait décrété en 1892, en confirmant l'expulsion par le Congrès de ressortissants chinois, que pour des raisons de sécurité intérieure, le gouvernement avait le droit, naturel en quelque sorte, de le faire. En janvier 1920, 4000 personnes furent arrêtées sur l'ensemble du territoire américain, emprisonnées pendant une longue période, gardées au secret et, pour finir, déportées. Boston, les agents du département à la justice, avec l'aide de la police locale, arrêtèrent 600 personnes au cours de réunions publiques ou à leur domicile au petit matin. Un juge fédéral relativement mal à l'aise décrit ainsi le processus. Des peines furent appliquées afin de donner une visibilité spectaculaire à l'opération et pour faire penser qu'il existait réellement un danger grave et imminent. Les étrangers arrêtés étaient le plus souvent des travailleurs parfaitement calmes et inoffensifs, d'anciens paysans russes, miséreux pour la plupart. Ils furent menottés deux par deux, puis enchaînés et traînés à travers les rues de la ville pour rejoindre le train qui devait les déporter. Au printemps 1920, un ouvrier imprimeur anarchiste nommé Andrea Salcedo était arrêté à New York par les agents du FBI et retenu pendant 6 semaines dans les bureaux de cet organisme, au 14e étage du Park Row Building. Toute communication avec sa famille, ses amis ou des avocats lui fut interdite. Un jour, on retrouva son corps écrasé sur le trottoir, au pied de l'immeuble. Selon le bureau fédéral, Salcedo s'était jeté par la fenêtre. Après sa mort, deux de ses amis anarchistes, qui travaillaient à la périphérie de Boston, décidèrent de porter une arme. Arrêtés dans un tramway de Brockton, dans le Massachusetts, ils furent accusés d'être les auteurs d'un hold-up et d'un meurtre, commis 2 semaines plus tôt, dans une usine de chaussures. Ces deux hommes étaient Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Ils furent jugés et reconnus coupables. Ils passèrent 7 années en prison, pendant lesquelles leur cas souleva l'indignation internationale. Les comptes rendus du procès et les circonstances dans lesquelles il eut lieu laissaient supposer que Sacco et Vanzetti avaient été condamnés à mort parce qu'étrangers et anarchistes. En août 1927, pendant que la police dispersait les manifestants à grands coups de matraque et procédait à des arrestations, Sacco et Vanzetti passaient sur la chaise électrique dans une prison sous haute protection militaire. Le dernier message de Sacco à son fils, Dante, s'adressait également dans un anglais laborieux à des millions d'autres personnes pour les années à venir. « Fils, au lieu de pleurer, sois fort pour être capable de consoler ta mère. Emmène-la faire une grande promenade dans la campagne pour ramasser des fleurs sauvages. Mais souviens-toi toujours, Dante, dans le jeu du bonheur, il ne faut pas garder tout pour soi. Aide les persécutés et les victimes, parce que ce sont tes meilleurs amis. Dans cette lutte qu'est la vie, plus tu aimeras, plus tu seras aimé. » On avait fait des réformes, on avait invoqué la ferveur patriotique et guerrière. Les tribunaux et les prisons avaient servi à convaincre les gens que certains idéaux et certains modes de résistance ne sauraient être tolérés. Et pourtant, du fond même des cellules des condamnés, le message continuait de passer. La guerre de classe se poursuivait dans cette prétendue société sans classe qu'étaient les États-Unis. Et en effet, tout au long des années 20 et 30, la guerre de classe continua. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.